France Culture. Avoir raison avec Louise Weiss, Xavier Mauduit.
Féministe, en lutte pour le droit de vote des femmes, pour la paix, pour l'Europe, Louise Weiss est une militante du XXe siècle, figure très médiatisée, journaliste. Elle emprunte toutes les voies possibles pour mener à bien ses combats qu'elle inscrit dans l'histoire.
J'aurais voulu avoir 2000 ans pour avoir pu assister à toute l'évolution de l'histoire et bien me rendre compte des profonds changements qui ont affecté la vie féminine à travers les siècles en Europe occidentale.
Bonjour Yves de Necher.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université d'Angers. Quand nous évoquons Louise Weiss, est-ce plutôt une pensée ou une action ? Avoir raison avec elle, c'est avoir raison sur ce qu'elle pense ou sur ce qu'elle fait ?
Eh bien, ça mérite réflexion. En tout cas, on peut aussi avoir tort avec Louise Weiss. Ses combats, elle les a incarnés pleinement. Donc ça, je pense que c'est vraiment... Vous parlez d'action, c'est vraiment une femme d'action. Je pense qu'elle a choisi aussi... pour ces combats, d'agir d'une certaine manière et d'une manière forte, qui rompait parfois avec un peu les habitudes du temps. Donc avoir raison avec Louise Weiss, c'est d'abord se méfier d'un risque de téléologie, c'est-à-dire de penser et de voir dans la Louise Weiss des années 20, des années 30, ce qu'a été ensuite sa carrière. La Louise Weiss de 1979 au Parlement européen, etc. Donc en tant qu'historien, mon approche va être plutôt, si vous voulez, de replacer vraiment Louise Weiss dans son temps, dans ses temps, en fait, plutôt que une espèce de linéarité comme ça qui n'existe pas en histoire.
Avec une personne à replacer dans son temps et dans son univers social, d'où vient-elle ?
Ben, Louise Weiss est née dans une famille de la grande bourgeoisie, protestante, alsacienne. Elle est née à Arras. Comme elle dit, c'est un peu un hasard de l'histoire, de son histoire, de l'histoire de sa famille. Elle a des origines juives de par sa mère, Jeanne Javal. Et cette famille, c'est une famille donc de grande bourgeoisie, très républicaine. Elle est l'aînée d'une Adelphie assez nombreuse. Et donc, évidemment, elle va être, dès ses premières années, en quelque sorte, en butte avec cette famille. Et c'est peut-être son premier combat, d'ailleurs. C'est-à-dire d'essayer d'exister en tant que fille, en tant que femme, dans cette famille où les règles, évidemment, sont importantes.
Une volonté de s'émanciper.
Oui, clairement, clairement. Notamment en poursuivant des études supérieures, ce qui n'était pas évident à l'époque. Pour une femme, pour une jeune femme, elle est agrégée de lettres à 21 ans. L'enseignement ne l'intéresse pas du tout parce qu'on n'y gagne pas sa vie. Et puis déjà, elle a sans doute une volonté, peut-être une soif même, de reconnaissance, qui fait qu'elle veut choisir un autre mode d'expression. Et ce sera le journalisme. Ou évidemment... Là aussi, c'est difficile pour une femme de son milieu de s'imposer dans un domaine, dans une profession très masculine.
Louise Weiss et le journalisme.
Vous savez, j'ai été menée à très rude école au point de vue journalistique. J'ai fait d'abord les Champs écrasés, les petites nouvelles, ensuite les nouvelles de Paris, ensuite des reportages, puis... de très grands reportages, et j'ai même travaillé pour les agences, c'est-à-dire au téléphone. Le métier m'a toujours passionné, il mène à tout, à condition d'y rester. Mais comme j'avais beaucoup de philosophie dans l'esprit qui m'avait été inculquée par mes maîtres, que je révère encore par cette Sorbonne que j'ai adorée, j'ai cherché toujours des leçons du comportement humain dans le spectacle du monde qui m'était, que je cherchais, que je regardais. Et j'ai surtout, dans Tempête sur l'Occident, essayé de remonter aux sources de la pensée humaine et aux lois morales.
Nous sommes en 1976 quand elle s'exprime ici et qu'elle évoque à la fois la Sorbonne, donc l'éducation et à la fois le journalisme, et tout cela c'est très républicain. On entend bien ici cette origine d'une famille républicaine, la volonté de s'émanciper. Yves Denecher, impossible de faire de la psychologie de quelqu'un, de savoir pourquoi elle souhaite s'émanciper, mais en tout cas il est possible d'étudier les voies choisies.
Bien sûr, la psychologie du personnage a été abordée par sa nièce, Madame Roudinesco, qui est la fille d'une sœur de Louise Weiss, Jenny Aubry. Et donc, je lui laisse, si vous voulez, brosser le portrait psychologique, si vous voulez, de sa tante. Les voies qui sont choisies sont tout à fait importantes. Le journalisme, alors dans l'extrait qu'on vient d'entendre, Louise Weiss dit « j'ai fait beaucoup, les chiens écrasés, etc. etc. » En fait, dès qu'elle s'investit dans le journalisme, elle est soutenue par un certain nombre de maîtres dont elle parle. Et puis, son père, Paul Weiss, eh bien, va beaucoup l'aider, tout en s'opposant à elle, tout en lui disant qu'elle ferait mieux de faire autre chose. Mais il ne va pas l'abandonner, en quelque sorte, à son propre sort. Et donc, quand elle intègre, avec Hyacinthe Fidouze, l'Europe Nouvelle, ce journal, cette revue plus exactement, dès janvier 1918, elle va très vite, finalement, imprimer sa marque. Alors, elle va se fâcher avec Fidouze, elle va dire que, justement, on lui donne pas assez de responsabilités, etc. Elle revient à la tête de l'Europe Nouvelle en tant que rédactrice en chef, rédacteur en chef, évidemment, on disait à l'époque, et soutenue par son père, qui est au conseil d'administration. Donc, très vite, elle va pouvoir imposer une marque. Et l'Europe Nouvelle, pour elle, eh bien, c'est vraiment une revue à l'anglaise, une revue très ouverte, une revue où on donne la plume véritablement aux acteurs de la politique internationale, aussi bien Benesch que Masaryk, pour parler des Tchèques, puisqu'elle s'intéresse beaucoup à l'Europe centrale. Mussolini va écrire aussi dans l'Europe Nouvelle avant d'être au pouvoir. C'est-à-dire qu'elle veut vraiment donner la parole à ceux qui font, j'ai presque envie de dire, l'histoire devant elle, et elle y arrive.
Est-ce qu'elle se met en avant déjà à ce moment-là?
Alors, elle va beaucoup fréquenter les couloirs de la SDN, à Genève, de la Société des Nations, puisqu'elle considère que cette voie de Genève, elle écrit d'ailleurs un éditorial resté célèbre qui s'intitule « Genève ou Moscou », c'est-à-dire « Genève, la Société des Nations » ou « Moscou, le bolchevisme ». Elle est anticommuniste, c'est vraiment la voie de la Société des Nations qui, pour elle, est la meilleure voie pour arriver à la paix. Et elle va être très caricaturée pendant cette période du début des années 20, où elle est beaucoup avec Briand, avec Herriot, les caricaturistes, Dersau, Roth, etc. La croque, en montrant que effectivement, elle veut jouer un rôle important au milieu, finalement, de ces hommes politiques.
Elle emploie des voies qui existent déjà, mais souvent, même presque exclusivement, réservées aux hommes. C'est-à-dire que ici, nous sommes dans une forme d'engagement dans des structures qui existent déjà. Le militantisme pour faire bouger les choses, c'est une autre voie.
Est-ce que Louise Weiss est une militante de l'idée européenne dans les années 20? C'est une bonne question. Elle soutient Koudenov-Kalergi, elle soutient Briand. En fait, elle est peut-être plus pacifiste et briandiste que véritablement européiste à l'époque. Elle ne propose pas de voie nouvelle, comme vous dites. C'est pas une Koudenov-Kalergi, etc. En revanche, effectivement, quand elle tourne cette première page de sa vie, avec le départ de l'Europe Nouvelle en 34, avec la fin de son école de la paix en 36, eh bien, elle choisit un autre combat, quel combat pour le droit de vote des femmes. Et là, véritablement, elle va choisir des modes d'action qui sont nouveaux, en tout cas dans le contexte français.
Avec ici un personnage qui est déjà médiatisé, pour utiliser un mot qu'on utilise très facilement aujourd'hui, on parle d'elle. C'est-à-dire que c'est un personnage qui apparaît régulièrement dans la presse parce qu'elle le souhaite. Et puis parce que c'est une bonne cliente, elle sait le faire. Elle est journaliste aussi de formation et puis la vraie journaliste de terrain.
Oui, oui, puis elle connaît toutes les ficelles du métier et elle a un réseau tout à fait extraordinaire dans le monde de la presse et dans le monde politique et dans le monde, pour caricaturer un peu du tout Paris aussi. Donc oui, c'est une bonne cliente. Elle sait faire les choses, elle sait choisir le bon mode d'action pour qu'on parle d'elle, pour qu'on parle de sa cause. jeter de la poudre de riz, arrêter un match de football, etc. Ça, incontestablement, elle sait y faire.
Et elle le fait avec humour.
J'ai été présidente de la grande association féministe La Femme Nouvelle. J'ai mené des années de campagne ardente pour les droits politiques des Françaises. J'ai eu des difficultés, que l'on veut bien dire célèbres, avec la police, puisque j'ai fait parler la poudre, j'entends la poudre de riz. J'ai battu le sénateur Duplantier dans sa circonscription. Mes amis et moi-même, nous avons compromis la réélection du président du Sénat et nous avons obtenu certaines modifications du code civil, du code du travail, avant que l'obtention des droits politiques ait fait de nous l'égal dans la nation des Français. Toutes ces aventures, je les ai retracées dans un livre qui s'appelle « Ce que femme veut » et qui, parlant de ses années de lutte pour le droit de suffrage, a eu à l'époque un grand succès.
J'ai fait parler la poudre de riz. Louise Weiss, en 1957, Yves Nenecher, nous avons ici un personnage qui sait faire parler d'elle, avec toujours cette problématique. Que met-elle en avant ? Elle-même ou les idées ?
Eh bien, les deux. Les deux. Elle construit et elle crée son personnage. C'est visible dans les modes d'action qu'elle choisit dès les années 30 pour son combat pour le droit de vote des femmes, en critiquant beaucoup les autres féministes, si j'ose dire. Mais ça se voit aussi très tôt, dès 1968, elle écrit ses mémoires, elle les publie. Et là, elle propose en quelque sorte une espèce de reconstruction de sa vie. Elle réinvente sa vie par l'écriture. Et il y a un certain nombre d'épisodes qui, aujourd'hui, historiquement, ne sont pas considérés comme des faits. Mais néanmoins, se mettre en avant, montrer qu'elle a eu une logique d'action, qu'elle a su flairer l'air du temps, qu'elle a su être en avance sur son temps, ça, c'est quelque chose qui lui importe beaucoup.
Vous avez des exemples là de cette reconstruction des événements historiques qui ne correspondent pas du tout à ce qu'elle écrit dans ses mémoires ?
On pense évidemment à la Résistance, bien sûr. Jenny Aubry, sa sœur, a été une vraie résistante. Et vous voyez, dans la manière dont je le dis, si sa sœur a été une résistante authentique, une vraie résistante, c'est que, évidemment, pour elle, les choses sont beaucoup moins établies. C'est le moins qu'on puisse dire. Néanmoins, elle en fait état dans ses mémoires. Elle a des omissions aussi dans ses mémoires. Par exemple, le 19 juin 40, on est le lendemain du 18, et de l'appel du général de Gaulle, elle refuse l'offre de son ami Jean Monnet, qu'elle a bien connu à la SDN, elle était secrétaire adjoint de cette SDN, elle refuse l'offre de Jean Monnet de partir avec lui à Londres. Historiquement, on peut avoir tort avec Louise Weiss aussi.
Il y a dans ce personnage quelque chose de complexe. Nous l'entendons bien, l'action. C'est au cœur de ce personnage qu'elle est en train de se construire. Et dans le même temps, beaucoup d'engagement, et pas d'engagement politique, où au moment de la grande décision, par exemple, de prendre l'avion en juin 1940 et de rejoindre Londres, elle ne passe pas le pas. Il n'y a pas un engagement politique évident, si ce n'est peut-être à la fin de sa vie, mais c'est encore autre chose à ce moment-là.
Alors, dans les années 20, clairement, elle soutient le gouvernement de Cartel des Gauches, c'est une amie de Herriot, et elle le soutient très souvent, et celui qu'elle adule, d'une certaine manière, c'est Briand. C'est Briand avec faire une paix juste avec l'Allemagne, c'est la réconciliation franco-allemande, c'est le pacte de Locarno, c'est mettre la guerre hors la loi, avec le pacte Briand-Kellogg, c'est le grand discours de Briand pour la construction d'une Europe unie. Là, elle est pleinement engagée là-dedans. Après, à la fin des années 30, son patriotisme ne fait aucun doute, évidemment, il est chevillé au corps, vraiment, de Louise Weiss. Donc, elle s'engage dans un certain nombre d'actions, mais qui ne seront pas les actions des résistants de la première heure, etc. Il ne faut pas oublier son ascendance juive Donc, elle a aussi échappé à, j'allais dire, à cette persécution. Mais incontestablement, en 1945, cette absence, finalement, d'engagement dans la résistance et d'une manière très claire, lui manque. Et en 1945, elle est dans une situation un peu délicate. C'est-à-dire que elle n'a pas de titre à faire valoir, en quelque sorte, de titre d'engagement à faire valoir dans cette période si importante.
Il faut attendre donc les années 1960 et même 1970 pour retrouver un engagement politique. Évident, même s'il est toujours présent par des soutiens politiques, mais c'est là où elle devient candidate pour les élections européennes.
Voilà, alors Louise Weiss se réfère très souvent au général de Gaulle, au gaullisme, et elle a fait des offres de service pendant aussi la construction économique européenne, à Jean Monnet, etc., qui n'y a jamais répondu. Jean Monnet, dans ses mémoires, ne cite pas une seule fois Louise Weiss. Pas une seule fois. Donc, il y a comme ça des rendez-vous manqués. Des déceptions, sans doute, aussi. Et puis, il faut toujours revenir sur ces mémoires qui commencent à apparaître à partir de 1968. C'est ça ce qui change tout. Et là, en quelque sorte, non seulement elle se réinvente, elle se reconstruit une vie, mais elle s'en invente une nouvelle. Et dans les années 70, effectivement, elle va réépouser, d'une certaine manière, la cause européenne, la cause européiste. Il ne faut pas oublier qu'elle n'était pas là au premier temps de la construction européenne. On peut dire que c'est une précurseur, mais pas une constructrice. Et dans ces années 70, quand Chirac lui demande d'être sa first lady sur la liste de 1979 pour les premières élections au suffrage universel pour élire les députés européens, elle dit oui. On ne peut pas dire que c'est un grand engagement politique. D'ailleurs, quand elle parle, c'est un atout dans le jeu de Jacques Chirac et du RPR à l'époque. Mais c'est aussi une carte un peu encombrante quand elle parle et qu'elle dit qu'elle ne voit pas finalement beaucoup de différence entre les idées du RPR et les idées du président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. On est en 79, ça fait un peu désordre, quoi. Mais elle n'a pas beaucoup de prise de parole, d'ailleurs, pendant cette campagne.
Dans cette histoire-là, nous voyons vraiment un personnage. Et dans les mouvements si nombreux du XXe siècle, il est difficile de la placer. Par exemple, vous évoquiez, Yves de Necher, ce qu'elle oublie dans ses mémoires, la lutte anticoloniale. Elle ne s'inscrit pas du tout dans cette histoire-là.
Alors, vous savez que c'est la période où elle tourne beaucoup de documentaires, des films documentaires, qui sont d'ailleurs très intéressants, en Asie, en Afrique, en Amérique, etc. Non, elle ne s'engage pas dans cette lutte, dans cette cause qui est sans doute peu la sienne. Il faut toujours remettre Louise Weiss dans son siècle. Elle a 21 ans quand éclate la guerre de 14. Elle en a 30 quand Hitler arrive au pouvoir. 52 déjà à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, sans dire que c'est une femme du 19e siècle, c'est une femme pleinement dans son 20e siècle, évidemment. Mais cette cause de l'anticolonialisme, non, c'est pas pour elle.
La lutte contre le fascisme aussi, comment se positionne-t-elle ?
Alors, si on revient dans les années 20 et dans les années 30, elle considère évidemment le fascisme italien comme une menace pour la paix. Et évidemment, il y a un certain nombre d'événements qui vont lui donner raison. Et quand Hitler arrive au pouvoir en 1933, là, elle considère que c'est vraiment un tournant. Elle dit que c'est pour ça qu'en 1934, elle casse sa plume, c'est-à-dire qu'elle quitte l'Europe nouvelle, qu'elle va prendre ses distances avec son école de la paix qu'elle a créée en 1930, etc. Parce qu'elle considère finalement que la paix, la SDN a failli, le fascisme, le nazisme sont au pouvoir, et donc cet idéal de paix, finalement, est caduque. Voilà. Après, elle en aura d'autres, puisque finalement, s'engager pour le droit de vote des femmes, elle s'exprime à plusieurs reprises en disant que c'est finalement un moyen de garantir la paix. Donc, on est dans une des contradictions aussi de Louise Weiss, qui dit la paix maintenant, c'est fichu, je casse ma plume, etc. Mais finalement, elle épouse une autre cause en faisant toujours référence à cet idéal de paix.
Avec un personnage que l'on associe au conservatisme, bien sûr. Mais la lutte contre le communisme, même s'il est présent, n'est pas quelque chose qui semble mis en avant. Et là, ça suinte, mais elle ne va pas s'engager politiquement de manière très nette contre le communisme.
Bah, dès les années 20 et dans la Russie bolchevique, alors elle s'engage sur un plan un peu humanitaire, qu'on a parfois oublié. Elle va faire un certain nombre de reportages, de films, montrer toute la détresse des enfants russes atteints par la famine, notamment en Ukraine, mais aussi ailleurs. Donc elle s'engage. Et elle montre en permanence, et dans ses écrits aussi, que de toute façon, le communisme n'est pas l'idéologie, n'est pas le mode de fonctionnement d'un État qui peut, au XXe siècle, permettre un progrès pour la société et la démocratie. Parce que c'est évidemment la démocratie qu'elle a chevillée au corps aussi. Voilà. Et puis après, dans les années 70, quand elle réapparaît finalement sur la scène médiatique d'abord avec ses mémoires, sans cette scène médiatique, il n'y aurait peut-être pas eu de scène européenne, elle adhère. Elle accompagne des mouvements politiques, le RPR de Chirac notamment, dont l'anticommunisme ne fait aucun doute.
Mais vous avez raison de souligner, Yves Nechère, qu'elle est devenue un personnage que les médias aiment bien inviter, parce qu'elle a des choses à raconter, elle a beaucoup voyagé, elle a beaucoup agi, elle porte toute une histoire, et puis... Elle parle bien, elle est sympathique, Louise Weiss. Ça devient, dans les années 1970, un personnage familier.
Radioscopie.
Louise Weiss.
Jacques Chancel. Louise Weiss, il y a quelques jours, le président de la République vous a remis la plaque de grand officier de la Légion d'honneur. Avant vous, trois femmes seulement avaient obtenu cette distinction, la maréchale Lyautey, Colette, le grand écrivain, et Germaine Tillion. Alors vous, l'octogénaire, vous avez été plaqué par le président de la République.
Je n'ai aucun mérite pour reprendre ce mot. Je l'ai enjolivé en lui disant que je n'avais pas l'habitude d'être plaqué par les hommes, même à mon âge. Cette aimable expression, je la dois à Édouard Herriot qui, en plaquant Colette, cérémonie à laquelle j'assistais parce que j'admirais à la fois Édouard Herriot et mon amie Colette, cette expression, c'est Herriot qui, avec son esprit jovial et très fin en même temps, avait dit à Colette, je n'ai pas l'habitude de plaquer les femmes. Et en l'occurrence, je serais navré que ce soit vous, si le terme ne pouvait être interprété de deux façons.
Radioscopie Jacques Chancel en 1976 avec Louise Weiss. Yves de Nechère, nous avons maintenant le personnage qui est une mémoire du siècle passé, mais telle que... elle-même s'est construite avec ses mémoires qui paraissent à partir de 1968. C'est aussi cela qui reste d'elle. C'est son regard sur le passé.
Oui, et ça, c'est une vraie construction, c'est une vraie entreprise mémorielle qu'elle opère avec la parution de ses différents tomes, de ses mémoires. Bon, il y a un petit peu de cabotinage aussi dans tout ça. On voit bien dans l'extrait que vous venez de passer. Tout ça, c'est un enrobage aussi de beaucoup de choses qui sont plus graves et qu'elle touche profondément dans ses mémoires. Hein. Voilà, on n'a pas le temps évidemment de dégrainer tout cela, mais voilà. Donc oui, c'est une écrivaine intéressante. Elle ne sera jamais à l'Académie française.
À son grand regret.
Mais effectivement, c'est une plume, c'est une écrivaine, et elle sait toucher le public, que ce soit à la radio, comme on vient de l'entendre là, ou par ses écrits. Par exemple, dans les années 70, quand elle écrit « Lettre à un embryon », on est en plein débat sur l'IVG, sur le droit à l'avortement, etc. Elle prend des positions natalistes, très hostiles finalement à ce droit à l'avortement. Ben elle sait faire passer des messages aussi, vous voyez, parfois d'une manière un peu plus grave.
Elle touche beaucoup de sujets, on va pas les égrener, vous avez raison de le dire, parce que il y en a beaucoup, mais quel type de sujets elle peut évoquer dans ses mémoires qui sont porteurs de vraies préoccupations sociales ou politiques?
Déjà la paix, s'il fallait peut-être garder un seul fil conducteur, moi ce serait peut-être celui-là pour Louise Weiss. La jeune Louise Weiss qui, à 21 ans, s'engage à Saint-Quay-Portrieux auprès de réfugiés de guerre, par exemple. Et puis qui va être évidemment touchée par cette guerre. L'Europe nouvelle, on en a déjà parlé, la SDN, tout ça c'est la paix. La grande école de la paix qu'elle monte en 1930, avant de la fermer en 1936. Et puis, dans l'après-guerre, quand elle fait ses tournées de films documentaires, etc., c'est souvent pour comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire pour comprendre les conflits. Et donc, elle veut être au plus près. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, marque son existence. Et puis, elle est moins connue en France pour ça, mais plus reconnue finalement ailleurs, notamment aux États-Unis. Quand, avec le sociologue Gaston Boutoul, elle crée finalement la polémologie, c'est-à-dire cette science d'étude de la guerre, des causes de la guerre. On est maintenant dans les années 60, et puis on va jusqu'en 1979, où son discours d'ouverture du premier Parlement européen élu au suffrage universel, le fil rouge, c'est encore la paix. Donc, je pense que là, on a une thématique, en quelque sorte, qu'elle incarne d'une façon très forte pendant toute sa vie.
Louise Weiss à la croisée des combats. C'est ça, en fait. Yves Denecher, vous êtes l'auteur de ces Françaises qui ont fait l'Europe. Donc, on la retrouve, évidemment, parce que c'est une de ses grandes figures. Mais on ne peut pas dissocier tous ces combats et toutes ces actions. On sent que l'ensemble est tressé ici.
Oui, elle l'a tressé, elle-même, cet ensemble, dans ses mémoires. Il faut toujours y revenir. Et effectivement, dans son discours du 17 juillet 1979, elle a 86 ans, elle dit que c'est une vocation de jeunesse miraculeusement accomplie, donc elle saute en fait, vous voyez, presque des années 20 avec l'Europe nouvelle jusqu'en 1979, et vous me parliez de ses idées politiques, etc. Eh bien, ce discours-là, qui a laissé beaucoup de traces dans les mémoires de ceux et de celles qui l'ont écouté, qui l'ont peut-être vécu plus qu'écouté. Parce que quand on regarde le fond du discours, quand elle parle par exemple des trois Karls qui ont fait l'Europe, Charlemagne, Karl Marx, Charles de Gaulle, etc., on voit qu'on a une espèce d'amalgame un petit peu dans lequel finalement elle puise ce qu'elle considère, elle, comme être l'Europe, oui.
Voilà, c'est une vision de l'Europe. Et merci vivement à vous, Yves Denecher, de nous avoir parlé de Louise Weiss, cette femme à la croisée des combats. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Prochain épisode, Louise Weiss. Madame serait-elle une suffragette? Avoir raison avec Louise Weiss, une émission réalisée par Thomas Abbeau, préparée par Sidonie Lebeau, avec à la technique Olivier Arnay. Émission à retrouver en ligne sur le site internet franceculture.fr et l'appli Radio France.